Je vais vous citer plusieurs versets qui contiennent tous l'expression « il faut ». J'ai déjà fait ça, mais j'ai renouvelé la chose. Il faut, il n'y a qu'à faucon. C'est les bonnes résolutions de début d'année. Moi, j'en fais plus. Vous en faites encore, peut-être ? Pourquoi j'en fais plus ? Parce que après, si on en fait et puis qu'on ne les tient pas, c'est décourageant, ça ne vaut pas la peine. Même à la limite, on peut avoir honte. Et il faut, vous savez, tous les gens qui dirigent quoi que ce soit, les présidents d'associations, tout ça, redoutent le yaka. Vous connaissez le yaka ? Le yaka, c'est celui qui vous dit, ah ben, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire là, il n'y a qu'à faucon, il faut, il n'y a plus qu'à. Et puis une fois, ben oui, il n'y a plus qu'à. Après, il faut le faire. Les leçons, donner des leçons. Voilà ce que vous devez faire la nouvelle année. Il faut. Et ben pourtant, des il faut, j'en ai trouvé beaucoup dans le Nouveau Testament et même dans les évangiles. Et donc, je vais vous proposer une série de « il faut » qui viennent des évangiles. Et puis, quand vous aurez bien tous des fardeaux sur le dos, on dira « ah, il faut », ben vous verrez à quel point l'évangile peut nous libérer de ces choses. Je vais en aborder d'abord quatre expressions qui se trouvent dans deux chapitres de l'évangile de Jean, dans les chapitres 3 et 4. Et il me semble, moi, que ces quatre « il faut » prononcés, non pas que par Jésus, mais en bonne partie par Jésus, forment comme un itinéraire spirituel. Le premier, vous le connaissez par cœur, sinon vous n'êtes pas chrétien évangélique. Dans Jean 3, verset 7, avec Nicodème, Jésus dit « ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ». Ben, c'est curieux, mais c'est dit comme ça, « il faut ». Il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut naître de nouveau. Mais comment je peux faire ? Puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau ? Ben évidemment que je ne peux pas faire ça. Mais Jésus le dit comme ça, quand même, il faut. C'est un « il faut » déjà, pour moi, je vais vous mettre déjà la puce à l'oreille, ce n'est pas un fardeau sur notre dos. Parce que tout simplement, c'est impossible. Ce n'est pas parce que je vais voir quelqu'un et puis je lui dis « tu dois naître de nouveau ». Forcément, si ça a une réalité, une parole comme ça, c'est le fait du Seigneur. C'est le Seigneur qui peut nous faire renaître. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir d'obéir à ce « il faut », comme nous n'avons pas, la plupart du temps, le pouvoir de respecter nos bonnes résolutions de début d'année. Il faut, et puis non. À l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce « il faut » est comme un point de départ. Il faut naître de nouveau. Il y en a un autre un peu plus loin dans le chapitre, Jean 3, verset 14. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. On est d'accord pour être élevé. C'est un langage propre à l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il le répète plusieurs fois. « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Et dans le langage de Jean, ça veut dire la croix. C'est un langage ambigu parce que élevé, oui, élevé vers Dieu, élevé vers le Seigneur. Avec cette réalité physique que Jésus, sur la croix, il a été élevé. Ouais, mais élevé pourquoi, quoi ? Élevé pour mourir, élevé pour mourir sur la croix. Ça désigne aussi la croix. Il désigne cet événement de la croix qui, dans l'Évangile, est présenté comme inéluctable, même avant qu'il arrive, il faut. On le reverra après. Eh bien, c'est une élévation en même temps. Ce sera son abaissement et son élévation en même temps. Et voilà, nous aussi, on doit entrer dans cette mentalité de la croix. On doit apprendre à mourir avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et c'est difficile à appréhender. Il faut, pourtant, c'est dit comme ça, il faut. Troisième, il faut. Celui-là, il est dans la bouche de Jean-Baptiste. C'est chapitre 3, verset 30. Je l'aime bien, Jean-Baptiste. Vous savez, si on regarde bien l'histoire, Jean-Baptiste, il est venu avant Jésus. Il a prêché, il a eu un succès fou. Les gens venaient à lui, il avait des disciples. Puis après, Jésus est venu, et c'est Jésus qui a pris le dessus. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh là, oh là, c'était moi le premier, c'est ma prédication. Il a dit ceci, chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà la grandeur de Jean-Baptiste. C'est son humilité. Et aujourd'hui, Jésus, et pas, on ne dit pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il a dit ceci, parce qu'il a compris, c'était sa révélation spirituelle, il a dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ben ça, voyez-vous, c'est, à mon avis, un bon résumé du processus de ce qu'on appelle la sanctification, du changement de nos vies. Comment nos vies vont-elles être mieux conformes à la vie du Christ ? Eh bien, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vit en moi. Paul, il le dit de manière radicale, de cette manière-là, carrément. Que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit lui qui vive en moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, je pense que notre vie chrétienne, la progression de notre vie chrétienne, se résume par cette parole, nous allons devenir des chrétiens plus conformes au Christ au fur et à mesure qu'il va grandir et que nous, nous allons diminuer et accepter de diminuer. Jean-Baptiste, il est grand à jamais, il sera oublié, il sera jamais oublié. Il a été le prophète qui a introduit le Christ et ça restera toujours, ce sera sa gloire d'avoir dit des choses pareilles. Et puis, on trouve au chapitre 4, verset 24, c'est le chapitre où Jésus parle avec la femme samaritaine pour dire où est-ce qu'il faut adorer Dieu, est-ce que c'est à Jérusalem, est-ce que c'est sur le mont Garizim. Jésus dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité ». Et ça, c'est un peu comme l'aboutissement. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin spirituel. Il faut naître de nouveau. Il faut passer par la croix, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, il faut qu'il croisse et que je diminue, et il faut enfin que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là, on est arrivé. On est arrivé parce que l'adoration, ça consiste à être tourné entièrement vers lui. L'adoration, ça consiste à ne plus être tourné vers moi-même. Oh, j'ai entendu un conte de Noël une fois. Tiens, je suis en train de faire une digression. Allez, je vais la faire. Il imaginait l'un des rois mages, je ne sais plus lequel, ça m'est égal, après sa mort, qui se balade comme ça dans les limbes, entre deux, dans le ciel, on ne sait où, à errer, à ne pas savoir où arriver. Et puis un jour, il voit une porte ouverte avec une lumière magnifique. Et il s'approche de cette porte. Et de la porte, il y a une voix qui vient, qui dit « Qui es-tu ? » Et il répond « Mais je suis Balthazar, le roi mage, tu te souviens, je suis venu. » Et la voix dit « Je ne te connais pas. » Et la porte se referme. Alors il erre encore, pendant des temps et des temps, le temps ne se compte pas. Et puis, à la fin, il finit par revoir cette porte, ouverte à nouveau. Et la voix qui vient de la lumière qui lui dit « Qui es-tu ? » Et là, il répond « Seigneur, je ne vois que toi. » Et le Seigneur lui dit « Entre, Balthazar, dans la joie de ton maître. » Parce qu'il est entré dans l'adoration, c'est « Seigneur, je ne vois que toi. » Et alors, ça va produire quoi, cette adoration ? Qu'on va être annihilé, qu'on ne va plus exister ? Non, mais que c'est lui qui nous donne notre existence. Ce n'est pas moi qui revendique mon existence. Moi, je suis David, regarde ce que j'ai fait, Seigneur, etc. Je ne te connais pas. Moi, il y aura toujours des bonnes raisons de me dire « je ne te connais pas, ce que tu as fait, tu ne l'as pas bien fait, etc. Hein » Je n'aurai rien à répliquer. Mais Seigneur, toi, je viens vers toi et c'est lui qui va vous donner l'Apocalypse, il le dit toujours de manière imagée, un caillou sur lequel il écrit un nom, votre nom véritable, celui que seul Dieu connaît, et il va vous le donner. Votre identité véritable, il va vous la donner, ce n'est pas la peine de la revendiquer. Vous voyez, c'est « il faut ». Dans ces « il faut », c'est un itinéraire spirituel, mais c'est un peu curieux de voir ce « il faut », de le voir dit sous forme de « il faut ». Parce que le « il faut », c'est un peu facile quoi, de dire « il faut ». Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai dit « il faut » ? Eh ben, je vous ai dit « allez, débrouillez-vous maintenant, il faut ». Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on... voilà. Et puis, rien n'est fait. Quand on a dit aux gens « il faut ». Eh bien, ce n'est pas fini. Mais vous verrez, hein, je vais y venir au meilleur « il faut ». Mais avant d'y venir au meilleur « il faut », qui sera ma troisième et ma dernière partie, je vais en venir à la deuxième. Parce que quand même, je ne veux pas occulter les choses. L'évangile, c'est aussi la croix, et ma deuxième partie, c'est « il faut souffrir ». Vous trouvez que j'exagère ? C'est Luc 24, verset 7. Jésus disait « il faut ». C'est ce « il faut ». Vous savez, dans chaque un des trois évangiles, Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection plusieurs fois de suite pour que ses disciples le comprennent bien. Et chaque fois, il employait ce terme « il faut ». Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut qu'il souffre beaucoup. Et les disciples n'étaient pas d'accord. Mais qui serait d'accord avec ça ? On n'a pas envie. Moi, je n'ai pas envie. C'est quoi ce « il faut » ? Est-ce que ça me concerne ? À Brué, il y a des migrants par là. Et puis, il y a certains qui sont accueillis à l'église de Brué et la Bussière. Ils sont logés le week-end. Il y en a quelques-uns. Ils sont là au culte des Éthiopiens en ce moment. Ben, ils ont fait ça, la fête de Noël. Ils voyaient des cartes avec un verset biblique écrit en français. Ces gens, ils ne connaissent pas le français. Ils ont pris la peine d'écrire eux-mêmes à la main des versets bibliques en français et qu'ils ont distribué à tous les gens qui étaient là. Et moi, j'y ai eu droit aussi. Alors, voici ce à quoi j'ai eu droit. Mais ça me touche beaucoup. Hein. Ces gens, c'est eux les pauvres et c'est eux qui donnent. Et ils donnent en nous honorant. Il aurait écrit en anglais que je leur aurais pas voulu, parce qu'ils savent, ils auraient même pu l'écrire en éthiopien, mais on n'aurait rien compris. Voilà, chacun fait ce qu'il peut faire. Ils ont fait l'effort de les recopier en français. Alors, j'ai eu droit à ce message de leur part. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Romains 8, verset 18. Vous voyez, ceux qui disent ça, qui ont copié ce verset, c'est des gens qui souffrent, qui ont souffert plus que moi, mais vraiment beaucoup plus, et qui n'ont peut-être pas encore fini d'en souffrir parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans leur pérégrination. Et ils me disent ça, c'est Paul aussi qui le disait, et qui ne parlait pas pour rien. Lui aussi, il avait souffert beaucoup des oppositions qu'il avait reçues à sa prédication de l'Évangile. Mais il dit, voilà, j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente, allez-y, mettez-y toutes les vôtres, et la gloire qui va se révéler en nous. Il y a un poids de gloire qui est sans commune mesure, et qui va se révéler avec les souffrances que nous pouvons subir. Et pourtant, il y en a des souffrances. Moi, quelquefois, les souffrances, il y a les miennes, un peu. Moi, je ne vais pas me plaindre. Je souffre moins que d'autres. Et celles des autres, parce que, aussi, j'ai un petit peu de compassion. Donc, de temps en temps, je vois les souffrances des autres et ça me tracasse. Ça ne me laisse pas tranquille. Je ne veux pas voir les autres souffrir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas moi que... Et je dis ces choses au Seigneur. Et je pleure, des fois. Pas que pour moi, pour les autres aussi. Et je dis, Seigneur, c'est quoi cette souffrance ? Et puis, j'ai ce verset et je me dis, est-ce que j'y crois ? Ben ouais, j'y crois. Moi, je me suis aperçu que j'y croyais. Je crois qu'il n'y a aucune commune mesure entre ce que nous subissons ici-bas, même certaines des souffrances qui durent plus que 3 ans, et qui des trucs qui ne vont pas et qui traînent. Ouais, j'y crois. Voilà. Et c'est pour ça que je ne me décourage pas. Ce n'est pas rationnel, hein ? C'est pour ça que je ne me décourage pas, que je ne dis pas j'en ai marre, je laisse tomber, que je ne dis pas j'en ai marre, je vais devenir égoïste parce que à s'occuper des autres, on n'y gagne pas grand-chose. Je ne dis pas ça, je ne le fais pas parce que je crois qu'il y a quelque chose en préparation qui va être révélé. Ce n'est pas quelque chose comme si cette gloire, bon, elle n'existait pas déjà. Hein. Aujourd'hui, c'est le noir et puis demain, ce sera le jour. C'est comme ça, normalement. Aujourd'hui, c'est la nuit, après, ce sera le matin. Aujourd'hui, c'est l'hiver, après, ce sera le printemps. Il faut attendre. Mais non, ce n'est pas comme ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hymnes chrétiens qui célèbrent la lumière au milieu des ténèbres, pas après les ténèbres. Il y a souvent les hymnes chrétiens classiques qui célèbrent la lumière, ils se chantent le soir, au moment où la nuit tombe. Moi, j'ai entendu une chorale, ils chantaient « Jésus-Christ, aux clartés d'en haut ». Ils ne chantaient pas ça au lever du soleil, mais au coucher du soleil. Radieux reflet des gloires du Dieu Saint. Et voilà, c'est ce que dit ce verset. Ce poids de gloire, il va être révélé. Ce n'est pas qu'il va exister plus tard, il va être révélé. Il existe déjà, il est déjà présent, ce poids de gloire. Et pour ceux qui marchent avec le Seigneur, ce poids de gloire, il est présent. Même dans nos souffrances. Bon, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Mais quand on souffre, il faut se demander de quelle souffrance. Est-ce que s'il y a des souffrances à cause du péché, il faut sortir du péché, hein, etc. Mais il y a des souffrances qui sont à cause du Christ. Les souffrances de ce monde ne sont plus des souffrances qui vont détruire le monde. Ben oui, normalement, c'est comme ça. Mais Christ est venu dans le monde. C'est lui qui porte le monde, qui a porté les souffrances du monde sur lui-même, sur ses épaules. C'est les souffrances pour le Christ. Donc il n'a jamais dit qu'on ne souffrirait pas. Hein. Mais il a dit qu'il y a un poids de gloire démesuré par rapport à la souffrance que nous portons. Et puis je vais en venir à des « il faut » qui ceux-là sont les meilleurs. Parce que s'il faut souffrir, il faut aussi ressusciter. Ça fait aussi partie de la parole de l'Évangile. Il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Et puis, j'ai trouvé dans le chapitre de 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de Paul qui parle de la résurrection des morts, ben, je les ai trouvés, c'est « il faut ». 1 Corinthiens 15, verset 25. « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Et si vous continuez, vous verrez que l'ultime ennemi, c'est la mort. L'ultime ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. Et dans 1 Corinthiens, dans la suite du chapitre, verset 53, « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Même la résurrection, c'est dit avec un « il faut ». Mais ce « il faut »-là, il me plaît plus que les autres. Parce que les autres, ils peuvent me donner l'impression, justement, de fardeaux qui sont sur mon épaule. Il faut, il faut, il faut. Celui-là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut qu'il règne. Lui, pas moi. Il faut qu'il mette ses ennemis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Les miens, peut-être. Sous les siens. C'est tellement évident que c'est « il faut » là, il repose sur ses épaules à lui et pas sur les miens. Vous savez, on a des combats dans la vie, ben, s'il y a un combat que vous ne gagnerez pas, c'est le combat contre la mort. Moi, je dis, il y a beaucoup de combats dans la vie. Certains, on les gagne, certains, on les perd. Et puis, à la fin, on mène le dernier combat contre la souffrance et la mort, et on le perd. Tout le monde, non? Sauf à la fin, peut-être, quand le Seigneur viendra, et que certains ne mourront pas, c'est ce que dit la Bible. Mais on le perd. Et il faut que ce combat-là soit gagné. Vous voyez, il ne dit pas qu'il faut qu'il mette un à un tous ses ennemis sous ses pieds et qu'à la fin, quand il aura fini ça, il va enfin régner. Non, non, il faut qu'il règne aujourd'hui pour mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Il règne déjà. C'est la bonne nouvelle. On le chante, hein. Alors, il faut que tu règnes jusqu'à la fin des jours. Oui, il faut que tu règnes jusqu'à la fin des jours. Et que tes ennemis soient détruits. Et que ses ennemis soient détruits. Et que ses ennemis soient détruits. Et que ses ennemis soient détruits. Voilà, pour moi, ce « il faut » là, il est libérateur et il illumine tous les autres. Aucun des « il faut » de l'Évangile ne prendra effet, ne deviendra réalité par nous-mêmes, par nos propres forces, même pas par nos propres bonnes volontés. Aucun, il n'y en a aucun qui va marcher. Aucune des bonnes résolutions, même les plus hautes spirituellement. Parce que toutes, elles dépendent de ces « il faut » qui sont les siens. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et cela donne bien la notion d'un combat. Hein. Et combat signifie souffrance. Hein. Mais il faut... Vous voyez, on n'est pas dans, en quelque sorte, la zone d'ombre avant la lumière. On n'est pas dans la zone de mal avant que le bien triomphe. On est dans la zone où il y a un combat parce que Christ règne. Sinon, on serait déjà tous morts. Sinon, les ténèbres auraient déjà triomphé. S'il y a un combat, c'est parce qu'il règne. Et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et l'ultime ennemi, c'est la mort. Voilà le combat que nous ne remporterons pas, mais que lui va remporter. C'est l'impossible, hein, c'est l'irrationnel. Vous y croyez? Moi, des fois, je me demande pourquoi j'y crois. Mais j'y crois. J'y crois. Vous voyez, il faut que nous vivions toutes ces choses. Est-ce que nous avons une nouvelle année avec des résolutions hésitantes? Ah là là, il faut que je me débarrasse de telle mauvaise habitude. Ouais, vous avez raison, hein, si vous avez des mauvaises habitudes, dites-vous des choses comme ça. Ah, il faut que je me réconcilie avec telle personne avec qui je suis en brouille. Ah oui, ils sont nombreux, les « il faut ». Il faut. Mais, voyez, illuminer tous ces « il faut » par « il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Pas sous les miens, hein. C'est pas, on va faire des dégâts hein, si on dérive, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et alors, ben, bonne année. Il faut qu'il règne. Vous croyez qu'il règne? Je sais pas ce qui va se passer, moi, dans cette année. Moi, j'ai des embrouilles en cours, je veux dire, de moi-même, de mes proches, d'autres personnes que je vois qui ont des problèmes, qui s'en sortent pas. Eh bien, bonne année, il faut qu'il règne. Et la récompense pour ceux qui seront fidèles, vous voyez, à quoi, comment dirais-je, comment pourrais-je être à l'image de Dieu, lui ressembler, faire comme lui? Ben moi, voilà ce que je vous propose pour cette année. Ben, je vais être fidèle, je vais continuer à me tourner vers lui, à y croire, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Tout le temps, tout le temps. Dieu ne change pas. C'est marrant, moi j'aime bien, on dit toujours Dieu ne change pas, Dieu ne change pas, mais il n'arrête jamais d'inventer des trucs nouveaux en même temps. En quoi il ne change pas? En sa fidélité, en sa constance, sa persévérance à aller chercher cette humanité perdue, à essayer de les illuminer, de leur faire comprendre un peu. Ouais, dans cela, il ne change pas. Et nous aurons notre récompense aussi. Si nous ne changeons pas, si nous sommes fermes, si nous sommes fidèles. Moi, le Seigneur m'a parlé dans ce sens cette année, alors je vous le dis. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Et si tu restais fidèle? Et le « il faut », le résultat ne dépend pas de moi, c'est le Seigneur qui va le faire. Voilà, si je suis à ma place, j'en bénéficierai. Amen.